Donc on va continuer, vous me parliez donc de 79 et de ce que vous aviez entrepris à ce moment-là. Alors est-ce que le fait de, donc en 79, la fête du champagne se passait à Bar-sur-Seine.
Oui.
Donc quelle était votre part dans...
Oh ben, ma part, alors déjà j'ai fait ce travail qui a été publié donc dans la revue de la SAFAC, qui est sorti pour la fête du champagne, donc qui a été vendu à ce moment-là. Il n'a pas rencontré un succès fou, hein. Il s'en est vendu, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'était sûrement pas encore bien le moment de parler de ça. Mais je pense que par contre, ceux qui m'en ont le plus parlé, c'est les plus anciens. Et j'ai eu l'impression à l'époque que ces plus anciens étaient contents qu'on en parle.
Les plus anciens, c'était ceux qui l'ont vécu ou c'était les enfants de ceux qui l'ont vécu?
Alors, c'était des enfants quand même, mais qui étaient grands, qui avaient quand même des souvenirs de 1911. Hein. Parce qu'en 1979, oui, c'était des enfants, des fils, mais qui avaient quand même vécu en 1911 ou tout proche de 1911. Donc, il me semble, hein, le fait qu'il m'en parle, prouvaient qu'ils étaient contents. Par contre, comme je vous le disais, je pense que les plus jeunes, ils disaient, oh là là, qu'est-ce qu'elle vient réveiller là, quoi. C'est un peu ça que j'ai ressenti. Hein. D'ailleurs, quelqu'un me l'a dit, hein, il ne faut pas réveiller les vieilles querelles. Vous voyez? Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre à cette fête de 79? J'avais fait un peu en parallèle, une grande exposition avec le directeur du CDDP de l'Aube, Centre de documentation pédagogique, une grande exposition dans la salle polyvalente qui présentait des reproductions de cartes postales de la révolte en grand. Le travail, les outils, et même sur la scène, j'avais reconstitué un intérieur ancien, la pièce unique où il y avait le lit de coin, les objets, etc. Donc, il y avait la partie histoire, et en fin d'exposition, il y avait des outils plus modernes. Avec lesquels on bouchait les bouteilles, les étiqueteuses, des choses-là, qui évoquaient donc la fabrication du champagne dans les années 50-60, quoi, des machines hein, qui ont été utilisées encore pendant un bon moment. Et j'avais même demandé à tous ceux qui fabriquaient du champagne à l'époque de m'envoyer une étiquette. Et j'avais, avec l'aide d'un vigneron, habillé des bouteilles avec les étiquettes pour présenter tous les fabricants de champagne. Oui, ils n'y étaient pas tous, parce qu'ils ne m'avaient pas tous envoyé leur étiquette. Ils m'ont dit, il y en a même qui m'ont dit, bah oui, mais moi, j'y suis pas. Ah, bah, vous ne m'avez pas envoyé d'étiquette. Donc, vous voyez, il y avait une volonté, au travers de ça, non seulement de rappeler l'histoire, que j'estimais importante, je vais vous dire pourquoi après, mais aussi de présenter la région revenue à la Champagne, fabricant du champagne. Et c'était l'objectif des fêtes, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà ce que j'ai fait pour cette fête.
Et ça s'adressait à qui cette fête?
Oh ben, il y avait 20 000 personnes.
Mais vous, dans l'organisation, est-ce que ça s'adressait à des personnes au local, comme on dit, ou c'était...
Oh ben, plus que le local, hein, parce qu'il y avait énormément de monde. Il y avait eu des pages spéciales dans le journal. Enfin, c'était quand même, ça s'adressait aux gens de l'Aube quand même. Hein. Je pense pas qu'à l'époque, on songeait à s'adresser aux touristes. Et le tourisme, on en parlait guère à cette époque-là. Hein.
Et vous, pareil, vous n'imaginiez pas, enfin, tourisme pour vous, c'était pas...
Ben, il y avait bien un office de tourisme à Bar-sur-Seine qui fonctionnait bien, mais enfin, c'était quand même pas quelque chose d'aussi important qu'aujourd'hui, hein.
La priorité, c'était plutôt de redorer un peu le blason localement.
Bah, déjà de faire connaître, oui, de faire connaître localement, dans l'Aube, et pourquoi pas éventuellement en dehors de l'Aube. Mais je pense que il n'y avait pas eu une publicité, je ne me souviens pas d'une publicité qui aurait débordé largement les frontières de l'Aube. Hein. Donc voilà. Alors moi, pourquoi maintenant j'ai eu à cœur de, je peux dire vraiment, j'ai eu à cœur de réveiller cette révolte de 1911. Ça, c'est à cause de mon grand-père. Donc mon grand-père qui est mort en 1932, à 62 ans, donc encore d'une hémorragie cérébrale, donc très assez brutalement, que je n'ai pas connu. Mais ce grand-père, on n'en parlait pas beaucoup hein, dans les familles de tout ça. J'ai quelques bribes seulement, mais en tout cas, je savais que ce grand-père qui était mort, non, c'est pas en 32 qu'il est mort, c'est en 1934, qu'il était mort en 34 sans avoir connu de récolte depuis 1929. Bon, alors ça, c'est un premier point. Donc, il était mort pauvre. Deuxième chose que j'ai appris de mon grand-père, ses terres, ses vignes, ont été vendues au prix de la friche, car il avait trois enfants, un fils qui est mort à 30 ans, en 1930, donc 4 ans avant sa propre mort. Je pense qu'il comptait sur lui pour reprendre les vignes. Ça a été pour lui un drame que la mort de ce fils, qui est mort accidentellement. Ce fils avait une fille, donc il avait une héritière, ma mère, donc qui n'avait pas épousé un vigneron. Et la sœur de ma mère, ma tante, qui avait épousé quelqu'un qui était agriculteur, mais qui a quitté l'agriculture pour entrer dans la gendarmerie. Donc les héritiers n'étaient pas dans le métier. À l'époque, personne n'avait envie de reprendre des vignes. Celui qui aurait dit, oh ben je vais reprendre les vignes, on lui aurait dit, mais t'es complètement fou. Donc, c'est bien, et il avait pas mal de vignes. J'ai un petit peu étudié avec le cadastre ce qu'il possédait. Je n'ai pas terminé mon étude là pour voir l'évolution, tout ça. Il avait pas mal de vignes. Ça a été vendu au prix de la friche. Donc, ça, c'est déjà deux éléments que j'ai appris comme ça au cours de conversation. Ce que j'ai appris aussi, et c'est sans doute ce qui m'a fait le plus mal, c'est que ma mère, à l'âge de 10 ans, elle a été placée chez une tante, une sœur de mon grand-père, qui habitait Bussey-en-Othe, donc dans le pays d'Othe. Pourquoi elle a été placée? Parce que trois bouches à nourrir, c'était trop à l'époque. Parce que la tante, elle n'avait pas d'enfant. Donc, à 10 ans, il y avait encore 2 ans jusqu'à ce qu'elle quitte l'école et elle deviendrait quelqu'un qui pourrait l'aider. Donc, me dire que ma mère avait été, je ne vais pas dire arrachée à sa famille, ça, ce serait un peu fort, mais enfin, enlevée à sa famille, à ses frères et sœurs, parce qu'il n'y avait pas assez pour trois bouches d'enfants à nourrir, ça a été quelque chose qui m'a vraiment fait mal. Et elle n'a pas été du tout malheureuse, ma mère, parce que sa tante l'a bien élevée, elle lui a même fait faire de la musique, elle l'a envoyée à une école ménagère très réputée et tout, mais elle était très sévère quand même. Donc, quand ma mère me disait qu'elle était très sévère, c'était tout le manque d'affection hein, qui ressurgissait. Et voilà, ça m'a. Et je me dis, c'est quand même pas possible que ça ait pu se produire, ça, ces choses-là, et que maintenant, on en soit là où on en est, quoi. Donc, j'ai voulu voir ce qu'il en était vraiment. Hein, où étaient les racines de cette pauvreté? Je ne vais pas dire misère, mais de cette pauvreté. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai. Vous voyez, donc c'est un cri du cœur, un peu, mon travail.
Ça, vos parents vous en parlaient, votre maman vous en parlait de ça?
Oui, comme ça, mais sans plus. Sans plus, dans une conversation. Oh ben, mon papa, quand il est mort, il n'avait pas eu de récolte depuis 1929. Vous voyez, comme ça, au cours d'une conversation. J'ai plus deviné que entendu dire, donc qu'elle avait été placée chez sa tante. Bon, bah, bien sûr, oui, bah, le grand-père, il était conseiller municipal, il avait fait partie du comité local dans 1911. Voilà, puis bah, ils étaient pauvres, ils avaient du mal. Vous voyez, voilà, c'est ça qui revenait, mais quand même sans plus. Et puis moi, je dois dire, ma grand-mère, elle est morte en 1961. Donc je l'ai connue bien, hein. Elle a même vécu chez mes parents à la fin de sa vie. Bah, je ne l'ai jamais interrogée. Jamais je lui ai posé de questions. Elle parlait très peu, c'était quelqu'un qui parlait peu. Voilà, elle tricotait des chaussettes à 4 aiguilles, comme je vous l'ai dit. Et j'ai jamais eu l'idée de l'interroger. Vous voyez, c'était quand on a 20 ans. Et à l'époque, on ne s'intéressait pas comme maintenant à l'histoire locale, à tout ça. Donc, voilà. J'ai sûrement laissé passer des choses. Sûrement. Mais bon, on ne peut plus revenir en arrière maintenant. Alors, ce que j'ai entendu dire aussi sur la révolte, mais pareil, c'est que. C'est des trucs glanés comme ça qui me sont revenus après coup. Ici vivait, c'est une maison de famille en fait, vivait une cousine de ma mère. Et ils habitaient déjà ici en 1911. Donc les manifestants sont passés devant la maison là, le jour de la manifestation de Polizot, quand ils sont venus de Polizot à pied à Bar-sur-Seine. Et cette cousine, elle m'a dit, mais on allait les voir passer sur le bord de la route, c'était comme la fête. Donc, vous voyez ce qui restait dans l'imagination, pas dans l'imagination, mais dans les souvenirs des gens de cette époque.
Ici, à Faubourg de Châtillon.
Faubourg de Châtillon, dans cette maison,
À
donc
voir sur ça.
à Bar-sur-Seine. Voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais il faut quand même que je comprenne. Voilà.
Et donc, dans vos interrogations, donc en 70, notamment dans les années 70, fin
Oui, un petit
70,
peu avant, j'ai commencé avant.
donc vous avez eu des témoignages dans ce même sens de la part d'anciens?
Ah, non, j'ai pas tellement interrogé les anciens.
Ou des gens de votre génération?
Non. Non, pas tellement. Pour faire ce petit bouquin-là, j'ai travaillé essentiellement avec un journal d'époque, le Petit Courrier de l'arrondissement de Bar-sur-Seine, et dont la collection se trouve à la bibliothèque de Bar-sur-Seine. Donc j'ai épluché 1911 d'un bout à l'autre et j'ai essayé de retrouver le déroulement des choses, l'état d'esprit de l'époque. Au travers de ça, j'ai interrogé une seule personne. Il s'appelait Léon Robert. Il avait 11 ans, 11, 12 ans en 1911. Donc, il s'en souvenait. Il était allé à Troyes. Il avait des souvenirs. Je l'ai interrogé. C'est la seule personne que j'ai interrogée. J'ai pas du tout travaillé par interview, voilà, j'ai travaillé avec le journal. Et j'ai même pas travaillé avec les archives. Je suis pas allée aux archives. J'ai travaillé avec le journal et avec les cartes postales. Alors que dans celui-ci que j'ai fait récemment, là, j'ai travaillé, je suis allée aux archives. Donc j'ai enrichi mes recherches, si vous voulez. Enfin, j'espère.
Et alors, est-ce qu'il y a eu un moment où, donc entre 79 et puis maintenant, où il y a eu une prise de conscience où, où des personnes se sont réclamées héritières, entre guillemets, de 1911?
Qu'est-ce que vous voulez dire par réclamer?
Ben, se sont dit, oui, on doit des choses à 1911, où on assume ce qui s'est passé, où on l'accepte.
Oh ben, ça, je l'ai entendu beaucoup à l'occasion du centenaire, là, cette année, hein.
Mais c'est tout.
Oui, c'est tout. Enfin, moi, j'ai laissé ça en sommeil, hein, en 1969, 19, comme je vous l'ai dit. Je suis devenue principale adjointe. J'ai beaucoup travaillé. Je me suis jetée dans le travail. Mon mari aussi, d'ailleurs. Et j'ai pas du tout eu le temps de me préoccuper de ça. J'ai tout laissé en sommeil. Et j'ai repris les choses quand j'étais en retraite en 2002, 2003, quand une association de Selles-sur-Ours qui s'appelle Histoire et Patrimoine m'a demandé, ils voulaient faire un livre sur Selles-sur-Ours. Et donc, ils m'ont demandé de travailler avec eux. Et alors là, donc, je me suis retrouvée dans la recherche historique sur un village, donc forcément un village de vignerons, de récoltants manipulants, un village tout à fait particulier d'ailleurs. Et là, je me suis retrouvée plongée dans l'histoire, d'une part, et puis en contact avec des vignerons, des viticulteurs, et voilà, donc, ça m'a ramené, hein, à l'histoire locale et bien sûr à la révolte que j'ai, pour le centenaire, j'ai décidé de creuser, quoi. Mais bon, il y a beaucoup de choses à faire que j'aurais pas le temps de faire, c'est sûr.
Et en creusant cette mémoire, est-ce qu'elle ressort ou pas dans les générations plus jeunes?
Alors moi, je creuse, là j'ai creusé dans les archives.
Mais au contact des personnes que vous voyez, que vous côtoyez?
Bah, au contact des personnes que je rencontre, mais je ne cherche pas à faire, à interroger les gens. Mais là, oui, beaucoup de gens disent, pour le centenaire, beaucoup de gens ont dit, heureusement qu'il y a eu cette révolte. Hein, on n'en serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette révolte. Ça a été dit et répété beaucoup. Il n'y a pas eu cette réticence que j'avais connue en 79. Au contraire, je dirais. Mais moi, je l'explique à ma façon. Hein. En 79, ils commençaient seulement à s'en sortir, en fait. Ils replantaient, ils commençaient à manipuler, à faire du champagne, les coopératives se développaient. C'était le début, il fallait qu'ils s'affirment. Ils étaient complexés par rapport à la Marne. Forcément, les grandes maisons de la Marne, comment arriver en compétition avec ces grandes maisons de la Marne, ça leur semblait insurmontable. Alors qu'aujourd'hui, ils sont plus complexés parce que ils ont réussi. Et maintenant, ils ont des médailles. Ils sont, je dirais pas à égalité, mais presque à égalité, en qualité en tout cas, avec la Marne. Parce que il y a toujours quand même un petit peu cette esprit de compétition, hein, le champagne de l'Aube, le champagne de la Marne, ils sont battus pour qu'on dise pas plus le champagne de l'Aube, mais on le dit toujours. Voyez? Et je pense que c'est pour ça maintenant ils peuvent revendiquer la révolte de 1911, parce que ils peuvent avoir la tête haute par rapport à la Marne. Enfin, c'est mon explication, hein, elle vaut ce qu'elle vaut.
D'accord, très bien. On a fait à peu près le tour des choses.
Bon, ça, c'est comme vous voulez.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh ben, je vous ai dit beaucoup de choses, déjà, je sais pas. Voilà.